Chapitre 10. Les invités de Mademoiselle de Puylaurens ne restèrent qu'un jour à Cordes. Ils partirent le lendemain après le déjeuner. Geneviève s'attendait à ce qu'il fût bientôt question d'eux. En effet, comme elle allait, selon son habitude, se mettre à faire de la musique, sa tante l'appela près d'elle. « Nous avons à causer, dit-elle, viens là !» Et comme Geneviève arrivait à cet appel, « Ferme la porte, » dit Mademoiselle de Puylaurens, qui s'était installée dans son fauteuil. « Il est inutile qu'on entende ce que nous avons à dire. » La porte poussée, Geneviève vint s'asseoir près de sa tante, devant une fenêtre fermée, exposée en plein midi, où il faisait une chaleur de serre. Ce n'était point l'habitude de Mademoiselle de Puylaurens de procéder par des ménagements ou par des détours. Ayant toujours eu la liberté et la fortune, elle allait droit, sans souci d'autre chose que de ce qu'elle voulait dire ou voulait savoir. « Comment trouves-tu le comte de Javerlac ? » demanda-t-elle. Geneviève se croyait si bien certaine de n'avoir rien à craindre de Madame de Javerlac et de son fils qu'elle ne trouva pas utile d'affirmer durement l'effet drôlatique qu'il avait produit sur elle. À quoi bon peiner sa tante, qui, bien certainement, avait de l'estime pour eux et peut-être même de l'amitié. « C'est un beau garçon, » répondit-elle. « N'est-ce pas ? Mais la beauté du corps est peu de chose, c'est celle de l'âme qui est tout. Et le père Élisée, qui avait charge de cette âme, en a fait le modèle de toutes les vertus. C'était pour Madame de Javerlac une lourde responsabilité d'élever son fils quand elle se trouve à veuve. Son mari était une nature violente qui avait fait toutes les folies, même celle de compromettre sa fortune. Il était à craindre que le fils n'eût hérité du père et le continuât. Ce danger imposait à Madame de Javerlac des devoirs d'autant plus impérieux que cet enfant était le dernier représentant d'une des familles les plus nobles et les plus pieuses de notre midi. Un Javerlac était lieutenant de Montluc à la défense de Sienne. Ce fut à un Javerlac que Louis de Bourbon se rendit pendant la bataille de Jarnac, au moment où Montesquieu se jetait sur le prince pour le tuer. La divine providence permit qu'elle rencontrât le père Élisée et qu'elle reconnut les grands mérites de celui-ci. Elle lui donna son fils et à eux deux, la mère et le précepteur, ils ont fait le jeune homme accompli que tu viens de voir. Il n'a jamais quitté sa mère. « Ça se voit !» dit Geneviève en souriant. « Tu le trouves un peu timide? Ne t'en plains pas, mon enfant !» Je dis ne t'en plains pas, car tu es trop fine pour n'avoir pas vu en lui un futur mari. Aussi, ce que tu viens de me répondre, quand je t'ai demandé comment tu le trouvais, me remplit de joie. » Geneviève laissa échapper un geste, sur le sens duquel Mademoiselle de Puylaurens se méprit. « Tu es étonnée, je le vois, dit-elle, que je te propose un mari maintenant, après avoir si souvent affirmé devant toi mes opinions sur le mariage, l'enfer des femmes. » « Il faut d'abord que tu te rappelles que tu m'as dit que tu désirais te marier, et si cela n'a pas changé mes idées, au moins cela a-t-il changé mes projets sur toi. Je m'étais flattée que tu me continuerais et que, comme moi, tu mettrais ta liberté et la dignité de la femme par-dessus tout et qu'avec la fortune que je te laisserai, tu n'aurais pas peur de rester vieille fille. Mais notre conversation à ce sujet m'a montré que tu ne sentais pas comme moi là-dessus. » Je tiens à mes idées, mon enfant, à mes sentiments, et j'ai le désagréable orgueil, je m'en confesse, de croire que je suis dans le vrai. Mais enfin, et j'en remercie Dieu, je n'ai jamais la présomption de vouloir convaincre les autres. D'ailleurs, en dehors de toi comme en dehors de moi, il y a des raisons qui rendent ton mariage nécessaire, qui l'imposent. Il ne pouvait pas déplaire à Geneviève qu'il y eut des raisons qui rendissent son mariage nécessaire. « Quelle raison, ma tante ? » demanda-t-elle. « Tu sais que je veux que tu gardes ma fortune et qu'elle ne puisse pas fondre entre tes mains, soit par mauvaise administration, soit par générosité. Eh bien, il n'y a pour cela, paraît-il, qu'un moyen sûr, c'est que je te la constitue en dot, attendu qu'une femme mariée ne peut pas disposer de sa dot. Il ne faut pas croire, ma petite fille, que je prends des mesures contre toi en mettant ces conditions à la donation de ma fortune. J'en prends contre ton père, contre tes frères qui te ruineraient, et rapidement, si tu avais la liberté de leur donner ce qu'ils te demanderaient. Voilà les raisons pour lesquelles je me suis décidée à te marier. Ce sont elles aussi qui m'ont fait penser au jeune comte de Javerlac. J'avais eu autrefois des relations d'amitié avec sa mère, qui est une sainte et digne femme. Je connaissais le père Élisée, ses mérites, ses vertus. Et le souvenir que j'ai gardé du jeune homme me rappelait précisément ce que tu m'as dit, qu'il était un beau garçon, et il paraît que, pour une petite fille de ton âge, c'est un point capital, puisque c'est le mot dont tu t'es servi pour le qualifier. » Pendant que sa tante parlait, Geneviève l'écoutait avec distraction. Peu sensible à ce qu'était, comme à ceux qu'avaient été les Javerlac, à celui qui avait accompagné Montluc à Sienne, comme à la sainte et digne femme qui était la mère du Polichinelle, elle ne pensait qu'à Ernest. Puisque sa tante tenait maintenant si fort à la mariée, et cela pour des raisons qui faisaient violence à ses idées, tant elles étaient impérieuses à ses yeux, n'était-ce pas le moment d'avouer son amour? Il fallait un mari, eh bien, elle en avait un qu'elle aimait, qu'il aimait, et le plus beau, le plus doux, le plus tendre, le plus intelligent, le meilleur. Ne devait-elle pas saisir cette occasion qui semblait véritablement providentielle? Ce serait de la lâcheté d'attendre. Et puis, attendre quoi, d'ailleurs? Sans doute, sa tante paraissait tenir à son Javerlac ce modèle accompli, et quand elle entendrait parler d'un homme qui écrivait dans les journaux et qui travaillait pour le théâtre, elle pousserait les hauts cris. Mais n'était-il pas à croire que la nécessité ferait taire sa résistance et que le désir de voir sa nièce mariée l'emporterait sur tout? D'autre part, n'était-il pas à croire aussi que sa bonté et son affection se laisseraient toucher? Elle devait donc parler. Elle le devait pour elle, et mieux encore, elle le devait pour lui. Cependant, il convenait de laisser sa tante achever l'éloge de son jeune homme charmant. « Si tu as été sensible à son mérite de beau garçon, » continua Mademoiselle de Puylaurens, « tu comprends que cela n'était pas suffisant pour me déterminer. Sans doute, c'est quelque chose, et même j'admets que ce puisse être beaucoup pour une jeune fille. Mais pour moi, il avait d'autres qualités, son éducation religieuse, sa piété, et enfin, ce qui pour moi est une condition essentielle, sa naissance. Il fallait un nom digne du tien, et si les Jarvelac ne remontent pas aussi haut que les Mussidan et les Puylaurens, ta noblesse cependant peut s'allier à la leur. » Ceci ferma la bouche à Geneviève. Comment parler de Faré au moment même où sa tante lui disait que le descendant de Javerlac, qui fut lieutenant de Montluc à Sienne, n'était pas suffisant pour une Mussidan? Ne serait-ce pas courir un trop gros risque? Ne valait-il pas mieux simplement dire que ce futur mari ne lui plaisait pas et qu'elle ne l'accepterait jamais? Quand sa tante verrait qu'elle était bien décidée à refuser, malgré tout, M. de Javerlac, il pourrait être question d'Ernest. Alors il y aurait à voir qui l'emporterait chez sa tante, ou de son désir de la marier, ou de ses exigences nobiliaires. « Il faut que tu saches, » continua Mademoiselle de Puylaurens, « ce que déjà tu sais peut-être d'ailleurs, c'est que tu as produit sur lui une impression foudroyante. Il m'a dit que tu étais une créature séraphique, Sainte Cécile elle-même. Quant à la mère, elle est ravie, elle t'aime déjà, elle te considère déjà comme sa fille. » Geneviève ne pouvait pas laisser aller sa tante plus loin. Et si peinée qu'elle fût d'infliger une déception à ses espérances et à sa joie, il fallait qu'elle dît nettement qu'elle ne voulait pas de M. de Javerlac. « Mais lui ne me plaît pas, ma tante, » dit-elle avec une douce fermeté. « Tu viens de me dire que tu le trouves beau garçon. Qu'importe cela, je ne le connais pas. Tu le connaîtras. Il ne me plaît pas. Il te plaira. Jamais. « Comment jamais? Et pourquoi? Mais c'est un enfant, un petit garçon. Sa mère et son précepteur tiennent ses lisières. Voudrais-tu que ce fût un hussard? » Il fallait qu'elle dît quelque chose et qu'elle donnât des raisons pour justifier son refus. « Je voudrais que ce fût un homme, » dit-elle. « Si vous saviez, ma chère tante, comme je suis désolée de vous peiner. Mais je ne peux pas vous dire que M. de Javerlac me plaît quand il ne me plaît pas. « Je n'admets pas qu'il te déplaise. »« Mais, ma tante, je ne veux pas dire que je te refuse le droit de trouver que tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais seulement, je n'admets pas que tu me dises qu'il ne te plaît pas quand tu viens de m'avouer toi-même, à l'instant, que tu ne le connais pas. Je comprends jusqu'à un certain point que sa tenue t'est surprise. Élevé comme il a été, il ne doit point ressembler au jeune Parisien que tu as pu rencontrer, mais ses qualités sont réelles, et pour les apprécier, il n'y a qu'à les connaître. C'est là ce que je te demande, avant de me répondre, il ne me plaît pas. Il reviendra soit seul, soit avec sa mère. Tu le verras, tu l'étudieras. Songe qu'il y a toujours un peu d'embarras et même de la gaucherie dans une présentation. Remarque aussi qu'il n'a que 23 ans et qu'il ne faut pas lui demander l'aisance et l'aplomb d'un homme de 30 ans. Enfin, mon enfant, réfléchis au triste état de ma santé, aux inquiétudes que cet état m'impose pour ton avenir. Et quand tu auras pesé tout cela, tu me répondras non avant. Jusque-là, je ne te parlerai plus du jeune comte et je n'ai plus qu'un mot à te dire à son sujet. Tu feras mon bonheur et tu assureras mon repos si tu l'acceptes pour mari.